Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Du Saint-Esprit. La question des anciens. La dernière fois, on avait simplement introduit les ministères presbytéraux, c'est-à-dire les ministères qui sont essentiellement décrits dans les épîtres pastorales, et nous allons ce soir entrer dans plus de détails. Les anciens. Donc il en est question dans de nombreux textes, en fin de compte. Dans le livre des Actes, par exemple, chapitre 11, verset 30, chapitre 14, verset 23, chapitre 20, verset 17. Nous apprenons ainsi, par le premier de ces textes, que, à côté des apôtres, il y avait dans l'église de Jérusalem des anciens. Ce sont ces mêmes anciens qui vont participer à la conférence de Jérusalem qui va se rassembler pour décider de ce qu'il faut faire des païens qui se convertissent à Jésus-Christ sans au préalable avoir été circoncis. Nous lisons également que dans certaines églises que Paul fonde, il y établit des anciens, et c'est aussi à ces anciens qu'il fait ses adieux dans le fameux discours de Milet qui nous est aussi rappelé dans le livre des Actes. Dans les pastorales, c'est-à-dire les épîtres de Timothée et de Tite, les anciens sont les premiers cités dans la liste des ministères presbytéraux. Il semble que dans ces épîtres pastorales, le terme d'ancien, presbyteroi en grec, soit synonyme, pratiquement synonyme du terme épiscopoi, c'est-à-dire les évêques. D'autres pensent qu'il peut y avoir une nuance entre ces deux termes. En tout cas, les fonctions qui sont dévolues aux uns comme aux autres semblent être très proches les unes des autres. Peut-être, effectivement, y avait-il une certaine spécificité des évêques, des épiscopoi par rapport aux presbytéroi, par rapport aux anciens, mais dans l'ensemble, il y avait plus de points communs que de divergences. C'est pourquoi nous emploierons ces deux termes pratiquement l'un pour l'autre. Des anciens, c'est aussi sous ce terme-là que l'apôtre Pierre se désigne lorsqu'il ouvre ses lettres. Il dit, moi, quand il a écrit aux anciens dans sa première épître, moi, Pierre, ancien comme vous. Bon, les anciens, c'est en fait une institution qui n'est pas spécifique à l'Église, mais c'est quelque chose que l'on trouve déjà dans le judaïsme et que le christianisme naissant a hérité du judaïsme. Les anciens, on les trouve, sans vouloir faire de jeu de mots, à une époque très ancienne dans l'histoire d'Israël, c'est-à-dire à l'époque du désert. Ils étaient l'élément clé de la structure patriarcale qui était celle du peuple d'Israël. En fait, Israël, peuple nomade, partageait cette institution avec tous les autres peuples nomades de son temps. Alors on peut citer parmi eux les Édomites, les Amalécites, les Ismaélites, etc. Jusqu'à aujourd'hui, les Bédouins modernes aussi d'ailleurs, n'est-ce pas ? Les anciens étaient, comme leur nom l'indique, des gens d'âge qui étaient à la tête des familles, des clans, et qui constituaient le conseil directeur de la tribu. Au-delà de la tribu, la Ligue des tribus, qui était l'ancien Israël, était représentée par les anciens. Donc, les anciens étaient une institution qui, pourrait-on dire au départ, n'avait pas un caractère spécifiquement spirituel dans l'ancien Israël, car nous allons voir, à côté de la structure patriarcale, encore une fois, qui est une structure laïque, puisque Israël partage cette structure avec les autres peuples voisins, nous allons voir s'établir une seconde structure qui, elle, sera plus proprement spirituelle, qui sera celle des prêtres, des lévites et éventuellement des prophètes. Puis, il y aura aussi les juges et ce qu'on appelle les shotrim, les policiers, enfin, c'est un mot moderne, ça du moins. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en hébreu ancien, surveillants, etc. Quand Israël reviendra d'exil et que donc la structure patriarcale aura disparu après l'exil de Babylone, les anciens vont devenir les responsables de la synagogue. La synagogue va être administrée par des anciens. Qui sont des anciens ? Plus cette fois-ci obligatoirement des gens qui sont descendants de, ou plutôt les représentants des familles de la tribu, mais c'est quand même les représentants, si vous voulez, des familles qui composent la synagogue. Car la synagogue, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de familles juives qui sont dans un certain lieu et qui donc se rassemblent pour adorer Dieu, pour prier et pour étudier sa parole. Donc il y a un certain nombre d'anciens dans chaque synagogue jusqu'à nos jours. Ce sont effectivement quand même en général des gens d'un certain âge, j'imagine mal des anciens de 20 ans, n'est-ce pas ? Et qui, de fait de leur âge, des responsabilités qu'ils ont assumées dans la vie civile, sont des gens d'expérience, des gens de sagesse, qui sont capables de prendre des décisions et des responsabilités. Quand nous arrivons dans l'Église, les choses sont un petit peu différentes. Parce que dans l'Église, qui n'est plus du tout une institution qui a une dimension, pourrait-on dire, temporelle, mais qui est uniquement spirituelle, les anciens sont des gens aussi qui ont une vocation et un ministère qui est uniquement spirituel. En fait, ce qu'ils ont de commun avec les anciens de la synagogue, c'est que ce sont effectivement aussi des gens d'un certain âge. Des gens qui sont des hommes d'expérience, de sagesse, c'était un des critères d'ailleurs, pour qu'ils soient choisis. Et puis ensuite, l'Église, par la bouche des apôtres, a ajouté un certain nombre d'autres critères qui sont d'ordre spirituel. Les anciens dont il est question dans le livre des Actes sont des hommes remplis du Saint-Esprit et de foi. Ça, c'est très important. Et là, nous voyons qu'il y a une dimension de mise à part par le Saint-Esprit qu'on ne trouve ni dans l'ancien Israël, ni dans l'institution de la synagogue. Mais le fait que ce soit là le critère essentiel, savoir qu'ils soient des hommes spirituels, montre bien ce qu'est la note dominante du ministère chrétien. Des hommes remplis du Saint-Esprit et de foi. Dans les épîtres pastorales, l'apôtre Paul ajoute un certain nombre d'autres critères qui sont essentiellement des critères moraux. Il faut que ce soit des hommes de bien, mari d'une seule femme, comme nous disions tout à l'heure, à table avec quelques-uns. C'est donc qu'il y avait des gens dans l'Église primitive qui n'étaient pas mari d'une seule femme, comme ça se passe dans certains pays d'Afrique, où on est dans une société qui est polygame, on est obligé de faire avec. Il est difficile de demander à quelqu'un qui est marié avec plusieurs femmes de lui demander de répudier ses femmes du jour au lendemain comme ça, et de condamner donc ses femmes à une situation économique précaire. Et pendant une génération, on est parfois obligé de tolérer des choses qui ne sont pas absolument bibliques, mais automatiquement, cette situation amène un certain nombre de restrictions. Celui qui se trouve dans une situation de ce type ne peut pas prétendre à un office de diacre ou, a fortiori, à un office d'ancien ou d'évêque. Donc non plus, bien entendu, les autres ministères dont nous avons déjà parlé. Il faut ensuite qu'il sache tenir sa maison et ses enfants dans la soumission. Ce qui est un minimum, nous dit l'apôtre Paul, car s'il ne sait pas prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Ça tombe sous le sens. Ça. Il faut que ce soit un homme pacifique, doux, qui ne soit pas emporté, colérique, car une de ses fonctions sera justement d'arbitrer d'éventuels conflits entre les membres de l'Église. S'il est lui-même quelqu'un qui participe au conflit, il vaudrait mieux qu'on en mette un autre. Ça aussi, ça tombe sous le sens. Il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas attaché à un gain honteux, qui soit désintéressé, qui soit pur de toute ambition charnelle et personnelle. Ça veut dire qu'il accomplit sa tâche, non pas pour un honneur, ni non plus pour un gain, puisque c'est le même mot en grec, mais que ce soit quelqu'un qui le fasse d'une manière totalement désintéressée, uniquement pour le règne de Dieu, dans une totale et entière consécration. Ces anciens peuvent être aptes à l'enseignement, ils doivent l'être, mais dans une de ses épîtres, Paul fait une petite restriction, laissant entendre que tous les anciens n'enseignent pas, ne prêchent pas. Que les anciens, déclare-t-il, soient jugés dignes d'un double honneur, on peut aussi traduire un double salaire, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le surtout laisse donc entendre qu'il y en a qui ne travaillent pas à la prédication ni à l'enseignement. Mais il semblerait logique que parmi les anciens, il y en ait qui soient donc aptes à enseigner, nous laisse entendre l'apôtre Paul. En tout cas, il faut qu'ils aient le sens des responsabilités et aussi une capacité donc de présider, de gouverner. Littéralement, si nous prenons le deuxième terme que nous avons évoqué, le mot épiscopoi, qu'on traduit par évêque, qui bien entendu est tout à fait différent de ce que les catholiques appellent évêque, et c'est pourquoi nous allons employer un autre mot que le mot évêque pour éviter toute confusion. Nous franciserons le mot grec, nous appellerons les épiscopes. Épiscopoi, littéralement en grec, signifie les surveillants, ceux qui veillent. Donc, on rejoint un petit peu là ce que nous avons dit des pasteurs. Pasteur, c'est aussi quelqu'un qui veille. Et dans le discours qu'il leur adresse à Milet, discours d'adieu, Paul leur dit « Prenez soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pasteur et épiscope, pasteur et surveillant. Car je sais qu'après mon départ, il viendra des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Donc à vous, anciens, de veiller pour écarter ces loups. À vous de veiller pour que ne s'introduisent pas des doctrines pernicieuses, car ce sera précisément la caractéristique de ces loups ravisseurs. Ils introduiront des enseignements pernicieux. Et c'est pourquoi l'ancien doit être propre à l'enseignement, même s'il n'enseigne pas lui-même. Il doit avoir une saine doctrine, il doit être d'aplomb sur la doctrine, il doit avoir une connaissance de la doctrine qui lui permette d'écarter les fausses doctrines. Et Paul dit cela à Timothée, lui dit, car il y a des gens qui s'introduisent dans les maisons, ils captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités de toutes sortes de passions, etc. Comme Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ainsi ces gens s'opposent toujours à la vérité, mais ils ne feront pas de grands progrès. Donc il y a ces contradicteurs auxquels, nous dit l'apôtre Paul, il faut fermer la bouche. Et un des rôles des anciens, c'est de fermer la bouche, le cas échéant, à ceux qui viendraient enseigner des saines doctrines. Deuxièmement, ils doivent écarter ceux qui viennent créer du trouble, des divisions. Après un deuxième et un troisième avertissement, nous dit l'apôtre Paul, ceux qui causent des divisions doivent ainsi être écartés pour que le troupeau ne souffre pas précisément de ces gens-là. La fonction des anciens nous est rappelée dans un certain nombre de textes comme Acte 20, verset 28, le texte que j'évoquais tout de suite, Philippiens 1, verset 1, et puis donc les épîtres à Timothée, 1 Timothée 3, verset 1 à 7, Tite 1, verset 7 à 9. Voir également 1 Timothée 5, verset 17, 1 Pierre 5, verset 2, le texte aussi que j'évoquais tout à l'heure. Moi, voici l'exhortation que j'adresse, moi, aux anciens, alors que je suis ancien comme eux. Bien, donc, ils veillent sur l'enseignement. Ils sont capables de s'opposer aux faux docteurs, 2 Pierre 2, verset 1. Ce sont ceux aussi qui exercent la présidence, et puis aussi qui nourrissent le troupeau. Jacques 5, verset 5, Acte 20, verset 28. Donc ici, nous voyons que par bien des aspects, les anciens, le rôle des anciens, recoupe celui des pasteurs. Nous avons vu que la différence essentielle, c'est que le pasteur est en général un ministère qui dépasse le cadre de l'Église locale, tandis que celui des anciens s'exerce dans le cadre de l'Église locale. Il y a des cas où le pasteur est un ancien, le premier des anciens, et son ministère ne dépassera pas le cadre de l'Église locale dans ce domaine. Et il sera donc assisté des autres anciens. Et donc les anciens sont la structure de l'Église locale, la colonne vertébrale de l'Église locale. Et rien n'est plus précieux à une église locale que d'avoir des anciens solides. Ce sont les colonnes de l'Église. Seulement, à partir de là, on comprend que devant une responsabilité de ce type-là, on ne peut pas investir n'importe qui d'une telle responsabilité. Comment peut-on devenir ancien? Paul le dit d'une manière très claire à Timothée. 1 Timothée 3, verset 1 à 7, Tite 1, verset 5 à 9. Si quelqu'un désire une charge d'ancien, il désire une œuvre excellente. Bon, déjà, ce texte est intéressant. Il nous montre quoi? Que l'on peut souhaiter devenir ancien. Il y a là une démarche personnelle de l'individu. Il peut y avoir une initiative personnelle. ce qui est, nous l'avons vu, fondamentalement et foncièrement différent des ministères selon Éphésiens 4, où l'initiative vient de Dieu seul. Maintenant, ceci ne veut pas dire que, comment dirais-je, le Seigneur n'ait rien à voir dans cette affaire-là. Car nous avons vu le caractère éminemment spirituel de ce ministère. Et par conséquent, il faut qu'il y ait, à un niveau ou à un autre, une sanction divine. Nous lisons, par exemple, que dans les églises fondées par Paul, dans le livre des Actes, eh bien, il y a deux manières de laisser des anciens. Ils nommèrent des anciens dans les villes où ils avaient prêché l'Évangile. Donc l'équipe apostolique nomme les anciens, discerne les hommes qui répondent aux critères. Et c'est exactement ce que déclare Paul à Tite. Tite, lui déclare-t-il, je t'ai laissé en Crète, toi, membre de l'équipe apostolique, pour que dans chaque ville, dans chaque église, tu établisses des anciens. En quelque sorte, je te délègue, moi, Paul, mon autorité apostolique, pour que tu nommes des anciens. Et le discernement des anciens apparaît donc ici comme étant une des prérogatives de l'apôtre. L'apôtre est celui qui a le discernement spirituel pour nommer les anciens, pour discerner parmi les frères ceux qui vont être aptes à cette tâche, à la fois qui le désirent et à la fois que le Seigneur a préparé pour cela. De la même manière que Jésus avait prié avant de désigner ses 12, de la même manière, il est certain que l'apôtre ne prend pas une décision de cette importance-là sans avoir longuement cherché la face de Dieu. Et précisément parce que Paul n'est pas en Crète pour accomplir ce travail lui-même, parce que sans doute il en est empêché par d'autres obligations et qu'il a été obligé de déléguer cette fonction à Tite, il donne à Tite un certain nombre de critères de discernement. S'il se trouve quelque homme qui est comme ci, comme ça, tous ces critères que nous avons évoqués tout à l'heure, alors tu pourras l'établir comme ancien. Donc, il y a des critères. Il y a des critères qui sont des critères objectifs. Ce qui fait que ceux qui aspirent à une charge d'ancien peuvent eux-mêmes se soumettre à ces critères-là et se demander « Est-ce que je réponds à ces critères-là ? J'ai envie de devenir ancien, c'est une très bonne chose. La Bible encourage, dit « Tu fais très bien. » Mais est-ce que je réponds à ces critères ? Et si je n'y réponds pas, bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'y réponde ? Parmi ces critères, il y en a deux autres très importants, nous n'avons pas évoqué. Le premier, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du malin, nous dit l'apôtre Paul. Ça aussi, ça tombe sous le sens. Si l'ancien doit effectivement être un homme d'expérience et de sagesse, on a du mal à concevoir qu'il puisse être un jeune converti. Pourtant, vous allez me dire, les anciens que Paul a nommés dans les églises qu'il a fondées, juste après les avoir fondées, n'étaient-ils pas des jeunes convertis ? Certainement. Bon, je crois que Paul ici énonce un idéal. Ça n'est pas une règle absolue. Une jeune église qui est née de zéro aura obligatoirement une structure qui sera composée d'éléments qui seront jeunes, non seulement d'âge éventuellement, mais également d'expérience. Ces hommes vont être appelés à mûrir. Et Paul, justement, prévoyant en quelque sorte un peu cette objection, dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère ensuite, s'ils en sont dignes. Et l'on peut penser que ces anciens qui avaient été nommés par Paul dans les églises où il passait, semble-t-il, un peu à la hâte, avaient été placés là parce que Paul n'avait rien d'autre sous la main, si j'ose dire, parce qu'il avait aussi le discernement du Saint-Esprit, mais aussi avec cette recommandation que il se réservait le droit de revoir les choses si ça n'allait pas éventuellement ensuite. Ça, c'est l'autorité apostolique. L'autorité de l'apôtre se situe à ce niveau-là. Et lorsque, par exemple, dans un cas moderne, frère Lukosek a soudain discerné cet extraordinaire réveil en mouvement cigane au début du réveil, il a été amené à faire ce que Paul dit, tu dois établir des anciens. Il est arrivé à un stade dans le réveil où il a dû établir des anciens. Bon, le réveil était encore relativement récent, il était encore relativement jeune. Et ça a été pour lui le grand tournant. Il a fait cela en tremblant. Il a été obligé là d'établir des hommes qui étaient encore des hommes jeunes et des hommes qui étaient jeunes dans l'âge, dans l'expérience et dans la foi. Et il l'a fait, évidemment, après avoir longuement cherché la face de Dieu, et Dieu avait donné des directives très claires, des révélations du Saint-Esprit, en ce qui concerne un certain nombre d'hommes qui, aujourd'hui, sont les cadres du mouvement de Cigane, manifestant ainsi que le choix de Dieu était le bon. N'est-ce pas ? Donc, il y a là, véritablement, cet appel de Dieu qui est là. Alors, ensuite, il y a la formation. Ces hommes doivent être formés. Qu'ils exercent leur ministère ensuite. Et puis il y a un autre critère, qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Ça aussi, c'est une chose importante. Qu'ils aient un bon témoignage de ceux du dehors. Et alors, à ce moment-là, eh bien, les anciens sont, je dirais, en quelque sorte, accueillis par l'Église locale. L'Église locale dit, eh bien, effectivement, ce sont des hommes que Dieu nous donne. Mais si après le temps d'épreuve, l'épreuve est négative, l'Église peut dire, tu sais, Paul, sur les anciens que tu nous as donnés, il y en a un pour lequel, là, on a vraiment des doutes. Hein. Ça ne va pas trop. Éventuellement, la chose peut être alors revue, c'est évident. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est écrit dans un autre texte du livre des Actes, « Ils firent nommer des anciens ». Bon, du moins, c'est comme ça qu'on traduit généralement. Et ce texte, qui est le seul texte relatif à, entre guillemets, l'élection d'anciens par l'Église, finalement celui qui a été privilégié par toutes les églises de type congrégationaliste pour justifier la nomination des anciens dans les églises par des votes. En fait, le terme grec ne signifie absolument pas cela. Le terme grec signifie ce que nous venons d'exposer, ça veut dire « il présente à l'Église » un certain nombre d'anciens, d'hommes qui leur proposent comme des anciens, et l'Église se prononce, disant, celui-là, vous ne le connaissez pas aussi bien que nous, hein, mais vous savez, celui-là, il n'a pas tellement un bon témoignage. Ah bon, il n'a pas un bon témoignage? Non. Parce qu'on dit de lui, il est adonné au vin, il est comme ci, il est comme ça. Ah bon, on va prendre un autre alors. En tout cas, ce qui est certain, et ça je voudrais insister très fort, parce que c'est un gros problème dans bien des églises, la nomination des anciens n'est jamais une nomination qui est faite au suffrage universel et direct cher à la République française et aux révolutionnaires de 89. Il ne faut pas mélanger les choses. L'Église n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une démocratie. Non pas que la Bible soit contre la démocratie sur le plan politique, ça n'a rien à voir. comme disait Churchill, la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'était sans son jugement. Je crois que c'est dû à deux choses. Premièrement, parce que c'était quelque chose qui était vécu par l'Église primitive. Qu'elle est de soi. Il n'y a pas besoin de le dire. Et il n'y a pas un traité systématique, hein, comme on pourrait trouver, chercher dans le Talmud, par exemple. Chercher dans le Talmud, les prêtres. Bon. Comment les prêtres sont comme ci, comme ça. Non. Mis à part ça, ces textes à Timothée et à Tite, t'y pas. Bon. C'est quelque chose qui va de soi, qui est d'une vie. Deuxièmement, il y a le fait que l'Église traditionnelle, l'Église au long de son histoire, s'est écartée du modèle biblique. On voit, par exemple, très intéressant, la Didaké. La Didaké avait encore ces ministères-là. Là, on les voit en fonction. C'est très intéressant l'étude de la Didaké à ce niveau-là. Puis, ensuite, on a le système hiérarchique qui s'installe. Et notamment, c'est au moment de la conversion de Constantin, quoi. Parce que l'Église devient une institution d'État. Alors l'État veut dominer les choses, et alors il veut la contrôler, il met la même structure que dans les fonctionnaires civils, quoi. Et on a le même problème, la République aujourd'hui. Si on a évoqué ces problèmes de ces diacres, ces anciens qui sont élus au suffrage universel et direct, c'est parce que la République française veut contrôler les Églises. Jusqu'à un certain point, c'est pas illégitime entièrement. Ils veulent savoir ce qui se passe. Bon, ben, c'est une institution dans l'État. Encore qu'il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. C'est tout le problème des rapports entre Église et État. C'est un problème beaucoup plus complexe. Enfin, qui est beaucoup plus complexe, peut-être pas, mais qui est complexe aussi. Mais c'est toujours la même tentation. L'Église s'aligne sur les institutions d'État parce que c'est plus facile. Parce que le reste est spirituel. Et quand on perd la vision spirituelle, eh bien, on revient sur une structure humaine. Et la structure étouffe la vie. Et ça, c'était la grande découverte des pentecôtistes, du début du siècle. Ils ne voulaient pas de structure. Et ils sont tombés dans l'extrême inverse. Ils ne voulaient pas de structure parce qu'ils disent « Les structures tuent la vie. Les structures tuent le Saint-Esprit. » C'est vrai, mais il y a les structures qui sont données par le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit n'est plus là, on a tendance à remplacer les structures données par le Saint-Esprit par des structures humaines. Et le système catholique est typique de cette affaire-là, parce que le système catholique, tel qu'il vous l'explique, ils disent « Mais c'est profondément enraciné dans la Bible. » Et ce n'est pas faux. Ils ont les évêques qui sont les successeurs des apôtres, donc ils ont la vision de l'apôtre, telle que la Bible montre. Ils ont les anciens qui sont les prêtres. Ils ont les diacres qui sont des fossiles, des coupions de tout ce qui était. Bon, maintenant ils sont en train de les remettre un petit peu en évidence, mais c'était ça. Seulement, ça n'a plus rien de spirituel. C'est uniquement administratif, c'est mort, c'est figé, c'est structuré. Il n'y a plus la vie de l'esprit dans ces choses-là. Et si l'esprit revenait, il ferait éclater tout ça. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le réveil charismatique. Ils n'ont pas accepté. C'est pour ça que le réveil a été tué. Et là, les premiers pentecôtistes avaient vu juste la structure tue la vie, la structure humaine. Et c'est pour ça que Donaghy a raison quand il dit logiquement, le réveil de l'esprit doit nous ramener dans la structure biblique. La structure spirituelle, donnée de Dieu, qui descend de Dieu, qui vient d'en haut, qui ne monte pas d'en bas, qui n'est pas une organisation humaine. Mais quand l'Église sort de la vision spirituelle, quand le Saint-Esprit s'en va, elle se donne une organisation humaine. C'est le seul moyen pour elle de subsister. Et alors, cette organisation humaine-là, elle s'oppose toujours au Saint-Esprit, comme l'avaient fait les pharisiens. D'ailleurs, vous trouvez ça, Étienne, au Sanhédrin, il dit « Homme au cœur endurci, vous êtes toujours opposé au Saint-Esprit, vous, vos pères, ça a été toujours comme ça, ça a été les chefs du peuple qui se sont toujours opposés au Saint-Esprit. » Et ça, vous retrouvez dans l'Église. Qui sont les plus grands adversaires de l'œuvre de Dieu dans l'Église? C'est toujours les chefs. Qui ont été ceux qui se sont opposés à Luther? C'était les chefs de l'Église. Qui ensuite s'est opposé aux révivalistes qui sont venus dans l'Église d'Angleterre au XVIIe siècle? C'était les chefs de l'Église anglicane, qui eux-mêmes avaient été persécutés un siècle plus tôt par les catholiques, et ainsi de suite. Qui sont ceux qui se sont opposés au mouvement de Pentecôte? C'était les pasteurs des églises évangéliques qui étaient issus des réveils qui les avaient précédés. C'est toujours pareil. Là, il y a une loi, qu'une loi spirituelle. Alors c'est pourquoi, justement, dans certains milieux pentecôtistes, on est tombé dans l'extrême, on dit, bon, bah, alors plus personne, plus de ministère, plus rien du tout. Seulement, là, c'est pareil, c'est l'anarchie. Et là, il y a tout vent de doctrine, etc. Et c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas simple. C'est un problème extrêmement grave, qui est tout en équilibre, qui est tout en nuance, et qui est véritablement, qui doit être un don de l'Esprit de Dieu. C'est là qu'on voit le critère de la marche spirituelle d'une œuvre si les ministères sont en place. Ça, je crois que c'est fondamental. Vous avez plein de gens qui rêvent d'être anciens, mais qui ne répondent pas aux critères. Puisque ce n'est pas le critère qui joue, c'est l'élection. Si on commençait à appliquer tous les critères de Tite et Timothée à tous les anciens qui sont dans les églises congrégationalistes, baptistes, pentecôtistes et autres, j'aime autant vous dire qu'il y aurait un drôle de nettoyage par le vide. Je me souviens quand j'ai objecté pour ce brave frère que la Bible dit qu'il ne doit pas être adonné au vin. Bon, bah, je vous laisse deviner ce que j'ai pu entendre. D'abord que je jugeais ce brave frère si gentil, si que on connaissait depuis si longtemps, etc. Et puis que il avait été élu, c'était pas le problème. Hein. Alors c'est plus la parole de Dieu qui fait la loi, c'est la loi de 1905, c'est l'État. Alors qu'on ait un bureau devant la loi, bon, bien sûr. Seulement, ou bien ce bureau, ce sont ceux qui ont donc qui sont en même temps les hommes spirituels, les véritables anciens, ou bien ce sont des prêtres non, tout simplement, qui n'ont aucune fonction dans la direction spirituelle de l'œuvre. Mais imaginez comme ça ce brave frère ivrogne qui avait son mot à dire dans la marche spirituelle de l'homme, de l'œuvre. C'est catastrophique, vous imaginez bien. Alors, la parole de Dieu n'a jamais prévu cela. D'autant que, à ce moment-là, ben, comme on dit familièrement, on se bouscule au portillon. Si être ancien, ça consiste tout simplement à aller se montrer, faire chanter, diriger, présider, être en vue, prendre des décisions, du haut, etc. Ah, vous avez beaucoup de gens qui veulent l'être. Et alors, vous avez des conflits formidables entre des gens qui ont envie d'être anciens, et puis manifestement, on se rend bien compte que c'est pas possible. Ou alors, ils sont les hommes d'un parti contre un autre, et beaucoup de divisions viennent dans les églises par des gens, justement, qui ont envie d'être anciens. Vous avez d'énormes problèmes dans les églises évangéliques. C'est la plaie des églises évangéliques parce que le système est intrinsèquement mauvais, parce que le système de gouvernement de l'église est fondamentalement anti-biblique. Et ça, eh bien, on a du mal à s'en rendre compte dans les églises évangéliques. Je crois que ceux qui ont le plus poussé dans ce domaine-là, c'est les baptistes. Et les églises baptistes sont, pardonnez-moi l'expression, à ce niveau-là, bien souvent, la plupart d'entre elles, je ne dis pas toutes, parce qu'il y en a qui sont spirituelles et autres, mais la plupart d'entre elles sont de véritables paniers de crabes à cause de ça. Alors, comme les anciens ou les diacres sont des réalités statutaires, parce que ça marche pour les diacres, on les appelle tantôt anciens, tantôt diacres, parce qu'on ne fait pas du tout la différence entre ça, c'est tout simplement des gens qui sont les représentants du conseil d'administration de l'Église devant l'État. Alors on mélange tout ça, ça fait une belle salade, mais ça donne quelque chose qui n'est pas très appétissant, du point de vue spirituel, loin s'en faut. Alors, dans l'Église où j'étais, par exemple, l'Église baptiste, il y avait 7 diacres, entre guillemets, c'est moi qui mets les guillemets, parce qu'à Jérusalem, il y avait 7 diacres. Seulement, est-ce que dans cette église-là, il y avait 7 anciens ou il y avait 7 diacres? Parce qu'en fait, ils faisaient fonction d'anciens. Et sur ce compte-là, combien Dieu en considérait-il comme anciens? Ben, il n'y en avait pas beaucoup, croyez-moi. Mais il en faut 7, alors on va en trouver 7. Et s'il n'y en a pas 7, eh bien, on en fabrique pour qu'il y en ait 7. Dans d'autres, c'est 10, parce qu'il faut 3 suppléants, s'il y en avait un qui était malade. Alors voilà, on en ajoute 3 autres, et s'il y en a que... Vous savez, il ne faut pas quand même penser que dans une église moyenne, il y a des cohortes d'anciens comme ça. sur une église normale, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme ancien? 4, 5, 6, c'est vraiment... Vous n'en aurez pas des dizaines et des dizaines quand même. Alors, il faut discerner. Si le Seigneur en a donné 10, alléluia, il y en a 10. Si le Seigneur en a donné que 3, il faut faire avec 3. Et si le Seigneur en a donné aucun, eh bien, il faut prier que le Seigneur en donne. Et en attendant, eh bien, ne pas en fabriquer à partir de zéro. Parce que bombarder ancien quelqu'un qui n'est pas ancien, selon les critères de Dieu, c'est la catastrophe. On va droit à la catastrophe. Parce que ce personnage va croire qu'il est quelque chose qu'il n'est pas, et puis il va devenir impossible, imbuvable. S'il occupe une fonction pour laquelle il n'est pas préparé, il n'est pas appelé, eh bien c'est une catastrophe. C'est toujours comme ça en œuvre de Dieu. Quelqu'un qui veut être pasteur et qui n'est pas pasteur, qui n'est pas appelé à être pasteur par le Seigneur, ça va être une catastrophe. Et on en a un exemple pas loin de chez nous. Je ne citerai pas le nom. N'est-ce pas ? Mais on en souffre. C'est un homme qui n'a aucune vision de l'Église. Il ne peut pas l'avoir, ce n'est pas de sa faute. Mais il occupe une fonction pour laquelle il n'est pas fait. Et il empoisonne tout le monde. Alors, le problème des anciens n'est pas un problème facile. Le problème des anciens doit être mûrement discerné. Et mieux vaut d'ailleurs des gens qui occupent la fonction, qui font la fonction, qui sont véritablement anciens, sans qu'obligatoirement ils aient un titre ronflant « Monsieur l'Ancien » sur la carte de visite. De la même manière qu'on ne va pas s'amuser à mettre « Monsieur l'Apôtre » sur la carte de visite, de la même manière on va pas s'amuser à mettre « Monsieur l'Ancien ». Il y a des ministères qui sont évidents, qui s'imposent, et finalement, on sait très bien qu'un tel est ancien, parce qu'il fait le travail de l'ancien, parce qu'il a la responsabilité de l'ancien, parce que sans obligatoirement qu'on lui donne le titre. C'est pas... Alors, ça, je crois que c'est très important. C'est très important de souligner cela. Et ça n'a rien à voir avec des histoires d'élections, de mandats qui sont remis sur le tapis tous les 4 ans, tous les 5 ans, comme au Palais Bourbon. Non. De la même manière, si quelqu'un est ancien, ben, il est à vie. Il n'y a pas une retraite d'ancien. Hein. Bon, il y avait les prêtres qui prenaient leur retraite à 50 ans, dans l'ancienne alliance. Hein. Mais ça n'a rien à voir. On est ancien, on est ancien. De la même manière que quelqu'un qui est apôtre, ben, il n'a pas une retraite d'apôtre. Hein. Alors, ça c'est très important parce que il y a cette ratification du Saint-Esprit qui est là, qui est essentielle. Et autant de bons anciens, de véritables anciens, sont une bénédiction pour l'Église, je disais tout à l'heure, l'Église locale, qui a alors une structure solide, qui repose sur des colonnes, autant des anciens qui n'en sont pas peuvent être alors là un désastre. Ça, j'en parle en connaissance de cause parce que je me suis trouvé dans l'église où j'étais avant confronté à ce problème-là et je sais le dégât, le tort que ça peut faire. Et ça, c'est des problèmes qui sont partis pour des générations après. Quand on a fait cette erreur-là au départ, c'est des générations, c'est presque irrattrapable après. Et on comprend les précautions dont s'entourait Paul quand il disait à Tite, fais attention, hein, si tu établis des anciens, fais les anciens pour qu'ils soient comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ils multiplient les choses. Que c'est trop grave, c'est trop sérieux. Et à partir du moment où il y a cela, alors il peut y avoir une très très grande bénédiction. Dans la mesure où ces anciens sont humbles, marchent la main dans la main dans la complémentarité. Chacun, bien entendu, dans le cadre de l'Église locale, il en sera comme dans le cadre de l'Église universelle. Chacun aura sa fonction plus spécifique. Nous avons vu, il y a ceux qui prêchent, ceux qui enseignent, ceux qui ne le font pas. Mais chacun sera utile là, à la place où il est. Et ne cherchera pas à aller au-delà de ses limites, à empiéter sur les prérogatives de son frère. Mais il y aura une prise de conscience de ce qu'est chacun, des dons, des talents reçus par les uns et les autres, et ce sera la réalité qui sera mise au service de l'ensemble. Et peut-être que précisément, là aussi, la tâche des ministères, c'est de coordonner ces anciens, c'est pas une chose qui est toujours facile, ça, pour justement faire en sorte que ce soit cette équipe harmonieuse. Dans le fond, c'était ce que faisait Paul avec son équipe, comme... C'était sur un plan différent, c'était pas des anciens, parce que c'était pour le cadre de l'Église universelle, mais il avait cette équipe apostolique avec lui qui le coordonnait, en quelque sorte. Il en va de même pour les diacres. Les diacres sont un ministère du même type que celui des anciens. C'est un ministère local, pour l'Église locale, qui lui aussi répond à des critères. Et en fait, quand nous comparons les critères qui sont évoqués par l'apôtre Paul pour les anciens ou pour les diacres, on se rend compte que c'est à peu près les mêmes critères. N'est-ce pas ? Il n'y a pas grande différence. Qu'est-ce qui diffère ? Eh bien, ce qui diffère, c'est le type de ministère. Le diacre, c'est le diakonos, diakonoi au pluriel, en grec, qui signifie, selon l'expression de vieux français, le ministre. Ça vient de là, le ministre. Parce qu'au départ, ce qu'on appelle des ministres aujourd'hui ne sont pas devenus les personnages imbuvables que nous avons dans le monde politique, mais les ministres sont les serviteurs. Serviteurs de tous. Bon, on va dire ça, nos ministres, ils en sont loin, bien sûr, hein, ça c'est évident. Mais dans le cadre de l'Église, ils devraient en être autrement. Le mot diaconia, c'est un mot général aussi qui représente en quelque sorte le ministère en général. Et les ministères s'appellent aussi des diaconioi. Apôtre, c'est un diaconia. Prophète, c'est un diaconia. Mais il y a, semble-t-il, en tout cas, c'est pas semble-t-il, c'est certain, un sens plus particulier du mot, qui concerne un type plus spécifique de ministère. Alors, quelle va être la différence entre le diacre et l'ancien ? Nous avons vu, ils doivent répondre aux mêmes critères. On peut aussi bien aspirer à un office de diacre qu'à un office d'ancien. Ils sont choisis de la même manière. Par conséquent, qu'est-ce qui diffère ? Eh bien, il y a un détail qui nous permet de voir clair, c'est que le diaconat est le seul ministère auquel les femmes ont accès. Car nous lisons dans les épîtres pastorales, les femmes aussi doivent être comme ci, comme ça, comme ça. Bon. Alors certains ont prétendu que il s'agit là des femmes, des anciens ou des diacres. Je pense que ce n'est pas exact. Nous lisons en effet dans l'épître aux Corinthiens que Paul recommande notre sœur Phébé qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc, il y a des femmes qui exerçaient le ministère de diaconesse. Et ceci nous permet de comprendre un peu mieux ce que va être le ministère de diacre. Car qu'est-ce que dit Paul pour les femmes ? Je n'autorise pas la femme à enseigner ni à prendre de l'autorité sur l'homme. Nous pouvons donc conclure que le ministère de diaconesse et donc de diacre, qui est son pendant masculin, est un ministère où il n'y a pas d'enseignement et où il n'y a pas d'autorité sur l'homme, en tout cas. Donc, cela représente quoi ? Eh bien, cela représente tout ce qui est secours, aide, entraide. Bref, qui n'implique pas une position d'autorité. Au sens des anciens. Tout le reste, quoi. Ce qui est quand même énorme. Ce qui est quand même très vaste. Ce qui concerne l'administration. Ce qui se concerne les enfants. Le travail parmi les enfants. Le travail parmi les, dirais-je, ce qu'on appellerait aujourd'hui les paumés. C'est pas ce, je crois que c'est trop restreint le ministère du diacre que dit c'est pour les tâches matérielles. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Non. Je dirais pas seulement. Ça aussi. Mais pas seulement. Un travail parmi les enfants est un travail spirituel. Le scoutisme, qui est véritablement un aspect du diaconat, n'est pas seulement matériel. Il n'est pas d'abord matériel. Il y a un aspect matériel comme dans tout. Mais ce n'est pas d'abord ça. Etc., etc. Le travail parmi les alcooliques, parmi les clochards, parmi les drogués, c'est quelque chose qui appartient au diaconat. Et c'est pas simplement l'aspect social, c'est aussi l'aspect social. Mais ça peut être aussi une forme particulière d'évangélisation dans ce domaine-là. Admettons, je prends un exemple. Admettons que dans une grande ville, une église ait à cœur les prostituées, le relèvement des prostituées, l'évangélisation des prostituées. Ce serait une erreur monumentale d'envoyer dans un travail comme cela des hommes, pour une raison évidente. On va envoyer des femmes. Des femmes qui vont faire quoi ? Donc, qui vont faire un véritable travail d'évangélisation. Ce n'est pas simplement matériel ni social, ça peut être spirituel. Mais dans quelque chose qui n'implique pas que l'on prenne de l'autorité sur l'homme. C'est clair ? N'est-ce pas ? Alors, nous voyons là qu'il y a une très grande diversité, une très grande richesse et une très grande palette de services divers dans le cadre de l'Église locale. Et que, bien loin d'être restrictif, ces deux grandes catégories sont deux grandes catégories avec une forme très diverse de services. Par exemple, la musique dans une assemblée, ça appartient au diaconat. C'est très vaste, c'est très varié. Et, en fin de compte, l'imagination, ou plus exactement la révélation du Saint-Esprit, doit nous permettre de découvrir, en fonction des besoins de l'œuvre, des formes nouvelles de diaconat, c'est-à-dire de service. Et à partir de ce moment-là, on comprend que là, on est loin de la vision que j'évoquais tout à l'heure, où le diacre... Il est élu par l'Assemblée tous les 4 ans pour bien jouer au petit chef. C'est pas ça. Et si on replace dans les églises cette vision-là du diaconat, on se bouscule un petit peu moins au portillon. Et en même temps, on aurait de véritables diacres, de véritables diaconesses, et on aurait une richesse beaucoup plus grande que ce qui est le cas dans bien des assemblées, dans bien des églises. Peut-être encore un mot pour ce qui concerne les femmes. Paul laisse entendre d'une manière très claire ceci, pour ce qui est de la femme, que la responsabilité première de la femme, c'est d'abord sa famille. notamment de la femme mariée. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la femme ne peut pas occuper des fonctions telles que pasteur, ancien, ou il n'y a pas d'ancienne, hein, ni de prophète, prophétesse, ou des choses comme cela. Parce que la fonction première de la femme, c'est sa famille. Si quelqu'un, dit Paul, en relation avec les femmes dans le contexte, n'a pas soin des siens, premièrement de ceux de sa maison, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Ça va très loin. Et Paul s'en prend à ces femmes qui délaissent leur propre maison pour courir de maison en maison, qui sont intrigantes, bavardes, sous prétexte de visite. On en connaît dans les églises, des femmes comme ça. Je viens d'une certaine église proche d'ici, il y avait une femme qui s'était sentie comme ça, un ministère de ce type-là. Bon, le mari, la femme, les enfants rentraient, rien de prêt, c'était obligé de faire chauffer le repas et tout ça, la femme rentrait à des heures impossibles, etc. Bon, ben, faut pas s'étonner que, qu'est-ce que vous voulez, l'homme se soit trouvé une autre femme au bout d'un temps, quoi. Mais ça, c'est humain. Et la Bible est sage. La Bible connaît la nature humaine. Et la Bible fait devoir aux femmes, d'abord, de s'occuper des leurs. C'est leur priorité. Maintenant, il y a deux catégories de femmes qui, elles, peuvent avoir un engagement plus précis dans le service de l'Église. Les vierges, et c'est pourquoi Paul leur accorde une attention spéciale dans la première épître aux Corinthiens. Il dit ceci. Dans le contexte de l'époque, bien sûr, il faut replacer, savoir que c'était le père qui prenait la décision de marier sa fille. N'exagérons pas. La fille était consultée. Et un père responsable n'aurait jamais, bien entendu, marié sa fille avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Mais enfin, c'était le père qui prenait l'initiative. C'était comme ça que ça se passait. Alors Paul s'adresse au père et dit, voilà, si un homme estime déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile sans qu'elle soit mariée, il désire la marier, parfait. Il ne pêche pas, il veut marier sa fille, qu'il la marie, très bien. Mais celui qui, là aussi sous-entendu, bien entendu, avec l'accord de sa fille, ayant une pleine conviction, sans pression d'aucune sorte, mais a pris une ferme décision de garder sa fille vierge, il a fait mieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, Paul veut dire par là que, ce qu'il dit d'ailleurs d'une manière très claire, la femme mariée s'inquiète des moyens de plaire à son mari, mais celle qui n'est pas mariée est tout entière de cœur et de corps au Seigneur. Et il est clair que l'Église primitive n'est pas tombée aux outrances de l'Église romaine en privilégiant le célibat et ensuite en l'imposant comme une condition sine qua non au service de Dieu. Mais par contre, à encourager ce qui était quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans le contexte de l'époque et notamment dans le contexte juif, à encourager des jeunes filles qui ressentaient l'appel de Dieu à embrasser le célibat pour une consécration à l'œuvre de Dieu dans le diaconat. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que la réforme, elle, dans, si vous voulez, la réaction anticatholique qui était la sienne, est allée quasiment jusqu'à imposer le mariage. Et il y a même certaines églises, il y a eu des débats là-dessus, au moment de la réforme. Par exemple, les Vaudois, ou d'autres, je ne sais plus, il me semble que c'est les Vaudois, je ne sais plus, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais du moins certaines églises, imposaient que, jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui, leur pasteur soit marié. On ne peut pas être pasteur sans être marié. Ce qui est incongru. Vous voyez, on était tombé d'une extrême à l'autre. Les catholiques disaient, on ne peut pas servir le Seigneur si l'on n'est pas marié. Si l'on est marié, et certaines églises de la Réforme ont dit, si on n'est pas marié, on ne peut pas servir le Seigneur. Je me souviens de ce que disait notre frère M. Willem quand il a quitté le catholicisme, les gens voulaient le marier. Parce que ce n'était pas concevable. Vous êtes converti, donc vous devez vous marier. Je dis non, moi je sais que je suis appelé au célibat. Non. Alors il faut ramener les choses dans leur juste mesure. Il existe, notamment, bon, pour les hommes aussi, pour les hommes ça joue moins, parce que la responsabilité de l'homme pour les siens, pour sa famille, existe, comme pour la femme, bien sûr. Et quand Paul dit que celui qui n'a pas soin des siens, notamment de ceux de sa maison, a renié la foi, qu'il est pire qu'un infidèle, il dit ça aussi pour les hommes. Mais encore une fois, la responsabilité première de la femme, c'est d'abord sa maison. Pour l'homme, ça joue moins. Donc, si une femme désire véritablement servir le Seigneur d'une manière absolue, d'une manière totale, dans une consécration totale, eh bien, l'option du célibat est quelque chose qui alors s'impose presque, si j'ose dire. Et c'est pourquoi nous avons une autre catégorie de femmes qui semble, dans l'Église primitive, avoir été le réservoir essentiel de diaconesses, c'était les veuves. Et Paul consacre aux veuves, justement, dans la première à Timothée, dans laquelle justement il expose ce qui concerne les anciens et les diacres, une place particulière. Seulement, il dit attention, pas n'importe quelle veuve. Et là, il semble que les veuves constituaient dans l'Église une catégorie à part de femmes qui étaient au service de Dieu. En même temps, en contrepartie, elles étaient aussi entretenues par l'Église, parce qu'il n'y avait pas de pension de veuve à ce moment-là. Et la plupart, souvent, la situation des veuves, comme on le voit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, était tragique. La veuve et l'orphelin, c'était le sous-prolétariat à cette époque-là. Hein, c'est les gens qui mendiaient. Alors, il y avait, bien sûr, comme on le voit dans l'Église de Jérusalem, au départ, les veuves qui recevaient, donc, il y avait un service de table, c'est-à-dire des secours matériels pour ces femmes. Pour ces femmes-là, et vraisemblablement pour leurs enfants. Donc, ça s'est maintenu dans l'Église, les veuves. Il y avait un rôle, et Paul dit attention, pour qu'une veuve soit inscrite sur le rôle, il faut qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et on voit, en fin de compte, que ce sont les mêmes critères que pour les diacres et les diaconesses. Mais refusent les jeunes veuves. Parce que les jeunes veuves, elles vont se marier. Hein? Et par conséquent, elles n'auront plus la même disponibilité. Pour qu'une veuve soit inscrite au rôle, il faut qu'elle ait dépassé 60 ans, il faut qu'elle ait élevé ses enfants, qu'ils soient bon témoignage, qu'ils aient bien élevés. Il faut qu'elle ait lavé les pieds des saints, ça veut dire qu'elle était au service des saints, donc un rôle de diaconesse. Et à ce moment-là, elles avaient une fonction dans l'Église. Donc, voyez-vous, toute cette question ici du ministère, on disait quelque chose de très vaste, et quelque chose qui a été mal perçu par les églises en général. Et je voudrais simplement terminer par la parole de Donald G., qui, dans une de ses dernières conventions, avait déclaré ceci, « Le mouvement Pentecôte réussira ou échouera dans la mesure où il redécouvrira ou ne redécouvrira pas les ministères. » Et de fait, on peut dire que si, à bien des égards, il y a eu des échecs, il y a eu des problèmes, pas seulement dans le mouvement Pentecôte, mais dans le monde évangélique d'une manière générale, c'est en grande partie, pas seulement dû à ça, bien sûr, mais c'est une des grandes raisons, et précisément ce problème des ministères. Ce problème des ministères qui est essentiel. Car c'est la charpente, si on n'avait pas une bonne charpente, si on n'avait pas une bonne structure, vous avez beau avoir ensuite une construction magnifique, eh bien, elle s'écroulera, hein, ça n'y a pas de problème. Alors voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire des ministères. Bien sûr, on pourrait longuement parler encore de ces questions qui sont essentielles. Ce ne sont pas des questions faciles, nous l'avons vu. Pas difficiles, pas faciles à cerner, encore moins faciles à mettre en œuvre. fin. Mais la grâce de Dieu est là aussi pour nous aider, à la fois dans la redécouverte et dans la mise en pratique de ces choses.